Il est 8h15, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invitée Sonia Mabrouk, c'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Et bienvenue ce matin sur Europe 1. La région Île-de-France doit-elle passer en vert ?
Écoutez, je crois que le déconfinement, le passage au vert est souhaité ardemment par tous les franciliens. Et moi-même, je le souhaite ardemment. Mais je sais aussi qu'il reste encore des foyers de contamination dans la région. Donc j'attends le verdict des autorités sanitaires.
Et si, Valérie Pécresse, si certains départements passent en vert en Île-de-France et d'autres en rouge, si l'Île-de-France se retrouve bicolore, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va ressembler à quoi ?
Ben, ce sera extrêmement complexe de séparer les départements des uns des autres, parce que vous le savez, la région Île-de-France, c'est d'abord des transports, des déplacements. Mmh. Et nous avons nos destins sont liés entre tous les départements, et on va travailler à Paris, on revient de Paris, on va d'un département à l'autre. Alors, cela dit, si la région passait au vert, elle pourrait passer au vert avec des mesures de vigilance renforcées, notamment sur l'utilisation des transports en commun qui pourrait être un vecteur de propagation du virus dans la région. Vous savez, la région, elle a assumé de très lourdes responsabilités pour que le déconfinement se passe bien dans ces dernières semaines, et nous sommes prêts à les assumer jusqu'au bout.
Ça veut dire clairement, avec la prudence évidemment qui doit être de mise, vous demandez, vous en tant que président de la région Île-de-France, qu'elle passe en vert. On sait que d'autres, justement, Xavier Bertrand pour la région des Hauts-de-France l'a demandé, a même écrit au Premier ministre.
Je le souhaite ardemment, mais je sais qu'il y a encore des foyers d'infection en Île-de-France. Donc, ce que je dis au gouvernement, c'est que je suis prête à assumer des mesures de vigilance renforcées si nous passions en vert en Île-de-France. Je pense évidemment au port du masque obligatoire dans les transports en commun jusqu'à la fin de l'épidémie. Je pense aussi aux règles de distanciation physique qui doivent s'appliquer dans les transports, au filtrage des personnes qui prendront les transports en commun, au maintien de l'attestation employeur qui permet de réserver les transports en commun à ceux qui vont travailler, au lissage des heures de pointe, au maintien du télétravail. Donc, nous sommes prêts à nous contraindre davantage, mais c'est vrai que nous avons envie tous que l'activité reprenne, nous avons tous envie aussi que les parcs et jardins rouvrent, tout ça sous surveillance et avec la prudence nécessaire.
Justement, vous parlez de ces parcs et des jardins, ça a été l'un des combats, cela est toujours d'ailleurs de l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo. Si tout à l'heure il n'y a pas cette réouverture, vous le comprendriez ?
Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on est capable. On l'a prouvé dans le métro, on l'a prouvé dans le RER, Île-de-France Mobilité, avec l'aide de l'État et des forces de l'ordre, a été capable de faire respecter des distanciations physiques dans un réseau aussi complexe que celui du métro, mm-hmm. des trains de banlieue. Donc je crois qu'on pourrait le faire aussi dans les parcs et jardins. Et je crois aussi qu'il y a un effet pervers à maintenir ces parcs et jardins fermés. C'est celui d'agglutiner des personnes dans les rues, et sur le canal Saint-Martin. Mm-hmm. Et donc je crois qu'il faut réouvrir sous surveillance ces parcs.
Mais alors,
là encore, c'est une question de responsabilité.
Oui.
Et les élus locaux sont prêts à prendre leurs responsabilités. Il faut aussi leur faire confiance.
Leur faire confiance, on entend votre message. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, justement, cet enjeu de réouverture des parcs et des jardins ? Est-ce qu'il y a une bataille politique autre que l'enjeu sanitaire ?
Il faut vraiment qu'on arrive à additionner nos forces. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes mûrs pour un pas en avant vers plus de liberté, vers plus d'activité. Nous sommes mûrs pour ce pas en avant et qu'on peut faire confiance aussi au civisme des Franciliens et au contrôle par les autorités de ces règles.
Oui, j'entends votre réponse. Je vous posais la question, Valérie Pécresse, un peu plus largement sur la bataille, notamment à Paris. Évidemment, elle est engagée. Agnès Buzyn sort du bois ce matin dans le Figaro et plonge dans cette bataille. Ça vous inspire quoi ?
Ce que je crois, c'est que Rachida Dati est la seule alternative crédible à Anne Hidalgo à Paris. Je l'ai toujours dit. Pour moi, il fallait qu'elle s'allie dès le premier tour avec tous les maires de droite sortants, même ceux qui avaient pris leur distance avec les Républicains. Alors, je sais que c'est la stratégie que désormais elle veut adopter pour le deuxième tour. C'est la stratégie gagnante et je l'aiderai à la mener.
Vous l'aiderez concrètement, cela veut dire quoi ?
Ça veut dire que Paris a besoin d'alternance, ça veut dire que Paris a besoin de changer de direction, d'être une capitale beaucoup plus sûre, beaucoup plus propre, j'allais dire beaucoup plus accueillante aussi, parce que ce que l'on constate, c'est que Paris est aujourd'hui devenue une ville pour les très riches et une ville aussi avec beaucoup de poches de pauvreté. Donc on a besoin d'une alternance à Paris et ma candidate pour Paris, c'est Dati.
C'est dit, c'est entendu. On a besoin, vous dites, de tout cela. On a besoin aussi qu'à Paris, en Ile-de-France, rouvrent les collèges et les lycées dans votre région. Qu'en pensez-vous sur ce sujet? Est-ce qu'il faut également accélérer le rythme et la cadence?
Ce que je souhaite, là aussi, c'est la réouverture des lycées avant l'été. Je la souhaite parce qu'il faut renouer le contact pédagogique avec tous les élèves que l'on a perdu de vue. Et c'est une réalité. C'est notamment une réalité dans les lycées professionnels où les chiffres sont très alarmants. On est à 40-50% dans certains établissements d'élèves qu'on a perdu de vue à cause du confinement. Donc je souhaite cette réouverture, notamment pour renouer le contact avec les lycéens les plus fragiles. Et puis j'aimerais que le gouvernement, on est à un mois du bac français, j'aimerais que le gouvernement nous dise s'il va y avoir un bac qui va être passé. C'est quand même la moindre des choses de le savoir. Alors la région Île-de-France se prépare, à cette réouverture. Et je voudrais rendre hommage à tous nos agents parce qu'on a tout désinfecté. Donc aujourd'hui, si le Premier ministre nous dit qu'on réouvre la semaine prochaine, nous serons prêts. Et j'ajoute pour les transports en commun que je souhaiterais que cette réouverture ait lieu à 9h30 le matin pour lisser les heures de pointe et éviter de remettre encore 100 000 lycéens ou 150 000 lycéens, un tiers des lycéens dans les transports en commun aux heures de pointe.
Ce lissage dans les transports, et vous avez évoqué tout à l'heure, Valérie Pécresse, le masque. Vous avez dit qu'il fallait qu'il soit obligatoire jusqu'à la fin de l'épidémie. Vous savez quand est-ce qu'elle va se terminer, l'épidémie?
Non, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que le masque protège. Je sais aussi que dans les transports en commun, où on est de toutes les façons confronté à des foules, qu'on le veuille ou non, même s'il y a de la distance physique, il faut que le masque soit conservé, le masque protège. Alors c'est un gros budget, l'achat des masques pour les familles. La région, vous le savez, a contribué, on a distribué des millions. Là aujourd'hui, Île-de-France Mobilité donne un masque tissu par abonné du Navigo, c'est 2 millions de masques qui sont distribués dans les gares, mais il va falloir que les entreprises prennent le relais pour leurs salariés, il va falloir que l'État prenne le relais aussi pour ses agents. Nous avons besoin aussi de fournir ces masques aux populations,
c'est un
très gros budget pour les familles.
On peut encore rester un an, voire deux ans masqués dans les transports.
Si c'est nécessaire, mais c'est un mal nécessaire, c'est une gêne nécessaire pour protéger contre le mal.
Les conséquences sociales à présent, Valérie Pécresse, elles sont très importantes. La direction de Renault va présenter demain son plan d'économie. Des usines franciliennes sont concernées, soit par d'éventuelles fermetures ou reconversions. Je pense à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, Flins, bien sûr, dans les Yvelines. Vous avez vu le patron de Renault, Jean-Dominique Senard. Qu'avez-vous demandé?
Oui, la situation du pays est grave parce que si la crise sanitaire décroît, la crise économique et sociale est devant nous. Et elle va être violente. Elle va être violente. Et s'il n'y a pas un plan massif de relance, il y aura une vraie déchirure sociale. Le cas de Renault est emblématique. Le gouvernement annonce un plan de soutien à l'automobile et un plan de soutien à Renault. Je rappelle que l'État détient 15% du capital de l'entreprise Renault. Mmh. Pour moi, ce plan de soutien doit être conditionné au maintien de l'emploi.
Il ne l'est pas suffisamment?
Écoutez,
la pression n'est pas suffisamment mise.
J'ai reçu longuement Jean-Dominique Senard hier. Je lui ai dit clairement que j'attends des engagements de maintien de l'emploi pour Flins et pour toute l'Île-de-France. Vous savez, la vallée de la Seine, c'est un territoire qui est très pauvre. On l'appelle la vallée de l'automobile. Mmh. Ce serait un véritable cataclysme que la fermeture de Flins. Donc je demande des garanties. Et je ne me laisserai pas enfumer par de vagues promesses, parce que je sais trop ce que ça veut dire quand on dit un site va évoluer. On dit un site va évoluer, c'est le mot un peu poli pour dire il va décroître progressivement et puis dans 2-3 ans on va le fermer. Donc je demande des garanties, je demande un plan d'avenir pour Flins sur 10 ans. Je demande aussi que l'automobile du futur de Renault soit toujours conçue en Île-de-France, à Guyancourt, que la filière recyclage qui est à Choisy-le-Roi soit développée avec une vraie vision d'économie circulaire qui est la vision d'avenir pour l'industrie automobile. Et surtout, je demande un comité de pilotage et de suivi qui intègre la région Île-de-France pour vérifier que tous les engagements que Renault va prendre soient tenus.
Et vous ne vous laisserez pas enfumer, dites-vous, ce sont vos propos, Valérie Pécresse. En 2022, une éventuelle candidature outsider de l'humoriste Jean-Marie Bigard, c'est une blague?
Écoutez, on comprend qu'Emmanuel Macron ait envie de se reconnecter avec le peuple. Mais je crains qu'un coup de fil à Bigard ne suffise pas.
Qui
un coup de fil à Bigard ne suffira pas. Et certes, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est on voit une aspiration des Français à s'exprimer de manière plus large, à participer à cette relance. Et c'est pour cela que la région Île-de-France va proposer aujourd'hui un plan de relance d'1,3 milliard d'euros qui est très puissant.
C'est
qui
important,
aura un volet à la fois
sûr.
Économique,
mais ma question...
un volet social. Attendez, je viens à Bigard. Un volet économique, un volet social et un volet écologique, mais surtout un volet participatif, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une envie des Français de participer à la reconstruction du pays, de s'exprimer sur le pays qu'ils veulent, qu'ils souhaitent. Et ça, on doit leur donner la
je
parole.
Je repose la question.
Je ne suis pas sûre que Jean-Marie Bigard soit le bon porte-voix pour l'ensemble des Français. Mais ce que je sais, c'est que les Français ont besoin de porte-voix.
Qui imagine le général de Gaulle appeler Jean-Marie Bigard? Ou alors, pourquoi pas, dites-vous, il faut bien s'adapter à son époque, peut-être.
Non, ce que je dis, c'est que ça ne suffira pas à reconnecter Emmanuel Macron avec le peuple, parce que je crois que c'est vraiment sur le terrain qu'il va falloir se déployer. Il va falloir prendre conscience de la montée de la pauvreté dans toute la France, avec des Français qui n'ont plus touché un euro depuis des mois. Il va falloir prendre en compte l'angoisse du lendemain, qui touche tous ceux qui aujourd'hui sont en chômage partiel et qui ne savent pas s'ils retrouveront un emploi. Il va falloir prendre en compte la faillite de toutes ces TPE fragiles qui se disent « mais où va être le filet de sécurité qui m'empêchera de tomber ?» Et c'est ça le rôle des régions. Le rôle des régions aujourd'hui, c'est de construire ces filets de sécurité pour les plus fragiles, ces plans de lutte contre la pauvreté, ces plans de retour à l'emploi pour les chômeurs.
On va conclure, Valérie Pécresse, si je vous entends bien, vous excluez d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron.
Ce que je souhaite aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de concorde nationale, d'union nationale, c'est que l'État tire les leçons de cette crise. Cette crise, elle a montré la faillite de la bureaucratie et de la centralisation. Aujourd'hui, ce qui est efficace, ce qui est agile, ce qui marche, c'est d'être au plus près du terrain. Et c'est les régions, c'est les collectivités locales qui portent cette proximité et ces solutions du quotidien.
Merci Valérie Pécresse, merci d'avoir répondu à mes questions et merci de rester avec nous sur Europe 1 et les auditeurs en compagnie de vous Mathieu.
Oui, il y en a d'autres.